as conferenxas de Radio Languedoc. Aquí vos prepausan la seguida de la conferenxa de Raymond Huard a prepaus de Jeanne Galzi, escrivana, romancière languedociana del segle XX. Fuguet registrada lo 5 de juillet de 2014 al curs de l'Universitat Occitana d'Estiu de Nimes.
Alors, faisons un petit point sur le travail littéraire de Jeanne Galzi pendant cette période. Elle a continué à écrire pendant la guerre des poèmes qui, au départ, sont imprégnés de patriotisme. Elle a cédé un peu à la flamme patriotique. Et puis, après, en 1918 et 19, elle est au contraire très sensible à la dureté épouvantable de la guerre. Et d'autre part, à Berck, elle transpose dans son expérience éducative, dans un livre qui n'est pas vraiment un roman, qui s'appelle « La femme chez les garçons », publié en 1919. Alors, c'est un ouvrage en rupture complète avec le précédent, qui était, je répète, un peu exalté, les grands sentiments, etc. C'est une description très concrète, par courte séquence, de ce que peut ressentir un professeur dans les circonstances que j'ai évoquées, avec ses essais de renouvellement pédagogique, avec ses réflexions sur l'enseignement classique, avec ses moments de découragement et même d'aspiration mystique. Et alors ces aspirations mystiques commencent à intéresser de près les critiques chrétiens qui se disent « Tiens, tiens, voilà une âme qui pourrait être allée vers nous, si vous voulez. Hein. » c'est normal. Bon. Des historiens ont jugé que ce livre était un des meilleurs témoignages qu'on pouvait donner sur les enfants pendant la guerre. Alors, avec ce livre, elle commence à se faire connaître dans le monde littéraire, vraiment. Mais ce n'est pas encore une vraie célébrité, et cette célébrité ne va venir un tout petit peu plus tard avec un roman, la parution d'un roman, donc en 1923, Les Allongés. Les Allongés, elle l'écrit donc à Amiens, après avoir repris sa tâche d'enseignement. Alors, c'est évidemment l'expérience des gens qui ont la tuberculose osseuse et qui sont à Berck. Ce n'est pas la première, c'est pas très gai comme sujet, hein, c'est pas un sujet apparemment très attractif. Hein. Bon, ce n'est pas la première fois qu'un roman met en scène des tuberculeux. Dostoïevski l'avait fait dans L'Idiot, et puis, par exemple, un auteur un peu mondain, disons, Michel Corday, dans Les Embrasés, à peu près à la même époque. Thomas Mann, l'Allemand, donc, ne publiera qu'un peu plus tard, en 1924, La Montagne Magique, qui retrace l'expérience d'un sénatorium. Bon, c'était tout de même assez audacieux de faire de la tuberculose osseuse, je veux dire, une matière littéraire. Donc, Jeanne Galzi a évité, évidemment, elle ne cache rien des aspects les plus terribles de la maladie, mais elle a évité quand même de se focaliser le récit là-dessus, et elle s'est consacrée avant tout aux états d'âme de ces grands malades, enfants, adolescents, jeunes femmes comme elle. Il y avait des soldats venus du front, il y avait des gens appartenant à des milieux très différents, parfois très riches, parfois pauvres, hein, et chez qui la maladie provoquait des réactions très, très différentes, certains abattus, désespérés, d'autres révoltés, etc., bon, d'autres déniant même la maladie, hein. Alors, et en même temps, il y avait dans le livre aussi une atmosphère de spiritualité qui, à nouveau, frappe les critiques catholiques, même si rien, absolument rien, ne traduit une conversion de Jeanne Galzi à la religion. Alors, le livre, évidemment, qui ne se prêtait pas du tout, on est en 23, vous voyez, on est dans les années folles, atmosphère de l'après-guerre, les éditeurs ne veulent pas de ce livre, hein. Bon, la plupart le refusent, mais un éditeur audacieux, Rieder, qui a disparu dans les années 30, l'accepte sur le conseil de Jean-Richard Bloch. Et après un début un peu difficile, ce livre eut un succès tout à fait inattendu, et à la rentrée littéraire, il fut même proposé pour le Goncourt. Mais à l'époque, les jurés du Goncourt excluaient de couronner une femme. Donc un critique renommé, Lucien Descaves, défendit l'ouvrage auprès du jury du Fémina, qui couronna les allongés, qui étaient pourtant en concurrence avec, par exemple, un livre de Joseph Kessel, L'équipage, et un livre de Monterland, Le songe. Vous voyez, c'était quand même une concurrence assez sévère. L'ouvrage a un très large écho dans la presse, et suscita même ce qu'on pourrait appeler une querelle des allongés. Parce que d'abord, on s'est ému à Berck dans le milieu médical en disant « Oh, mais ça donne une image trop sombre de cette station de soins, qui est quand même une station de soins qui fait honneur à la France, hein, qui sauve des tas de gens, etc. » Bon, mais ce n'était pas vraiment le sujet. Ensuite, un vrai débat chez les chrétiens. Un vrai débat chez les chrétiens dont certains... comme Eugène Tavernier, qui était critique à Dépêche de Lille, et aussi l'influent critique de la revue des lectures, c'est la revue des lectures, c'était la revue de l'Église, hein, pour conseiller les livres aux gens, aux croyants. Ils avaient aimé ce livre à cause de son atmosphère, justement, de spiritualité. Et puis, il y avait en revanche une frange catholique plus intransigeante, dont, par exemple, une dame de Nîmes, mademoiselle Lazarus, qui était royaliste, et qui, au contraire, dénonçait ce livre comme un livre matérialiste, d'un scepticisme macabre. Donc, vous voyez, il y a tout un débat autour du livre, mais dans l'ensemble, l'accueil est très favorable, on parle d'accent pascalien, on est sensible à la délicatesse avec laquelle Jeanne Galzi a traité le sujet, et c'est le livre de Jeanne Galzi qui a connu la plus longue carrière, puisque édité en 1923, il a été réédité jusqu'en 1975, hein, donc c'est une assez belle carrière. Et puis, il a eu le prix Fémina. Donc, le modeste presseur au lycée d'Amiens, complètement ignoré, était très rapidement devenu, comme ça, du jour au lendemain, une personnalité littéraire nationale. Hein. Et sur le plan matériel, le prix plus les revenus des droits d'auteur, quand même, améliorèrent assez sensiblement la position de l'auteur. Et le succès des allongés a permis la réédition, évidemment, de La femme chez les garçons et la réédition de L'enseveli, et ce qui leur a permis de toucher un nouveau public. Voilà. Et enfin, donc, en 1921, grâce au soutien d'Eugénie Segond-Weber, qui était une très forte personnalité, Jeanne Galzi réussit à faire jouer à Montpellier sa pièce Cassandre, donc, en 1921, à l'occasion des fêtes du 7e centenaire de la faculté de médecine, et pièce qui a eu du succès, mais évidemment sans lendemain. Alors, voilà où on en est, donc, vers 1923. Voilà c'est ce qui était devenu en quelque sorte Jeanne Galzi au moment du Fémina. Elle reste quand même, c'est un visage très beau, hein, très majestueux. Et donc on passe à une nouvelle étape, à une période plus paisible, celle qui s'étend entre le prix Fémina et la guerre de 1939. Alors elle mène une double vie de professeur, enfin une double vie, pas au sens habituel du terme, mais enfin elle mène une vie à la fois de professeur et d'écrivain, car elle a choisi de rester professeur pour des raisons matérielles, parce qu'il faut faire vivre sa famille, toujours, sa mère et sa sœur. Hein. Et puis, ça lui assure son indépendance matérielle, et la littérature est en plus. Sa santé s'améliore au cours du temps. Elle est nommée d'abord à Saint-Germain, puis à Saint-Germain dans la banlieue parisienne, puis à Paris, au lycée Lamartine, où elle va rester jusqu'à sa retraite, en début des années 40. Petit lycée de jeunes filles, très sympathique. Alors, c'est un professeur assez original, hein, qui à l'époque, au lieu de faire cours, fait dialoguer ses élèves, etc. Un rapport d'inspection générale de 1938 dit ceci. Montaigne, à coup sûr, se serait plu à cette classe qui lui était consacrée et n'aurait pas reconnu, entre guillemets, une geôle de jeunesse captive dans ce milieu libre, aisé et gai, où la finesse et l'esprit se jouent agréablement. Les élèves visiblement heureuses doivent aimer leur professeur et lui avoir gré de les initier de façon si charmante aux choses de l'esprit comme on le ferait à des loisirs littéraires dirigés. Oui, pour un rapport d'inspection générale, je peux vous dire que c'est quand même un bon rapport d'inspection générale. Bon, donc elle partage son temps entre l'enseignement et la création littéraire. Elle vit très simplement à Passy, non loin de son ami Eugénie Segond Weber, et puis elle va à la campagne deux jours par semaine par écrire. Alors, elle n'écrit plus à ce moment-là, elle continue à produire des poésies, mais dans l'ensemble, elle ne les publie plus. Elle a aussi abandonné momentanément le théâtre, elle y reviendra un peu plus tard, et elle se consacre essentiellement à deux genres, le roman et la biographie. Alors, dans le roman, dans en matière de roman, Jeanne Galzy ne s'est jamais fixée, si vous voulez, dans un type de roman. Il y a des romanciers qui se figent dans un type de roman. On voit Mauriac, un roman de Mauriac, un autre roman de Mauriac, un troisième roman de Mauriac. Je vous dirais que c'est tous les mêmes. Ils sont très bons, ça n'empêche pas, mais c'est tout de même un genre littéraire qui est à peu près toujours le même. Tandis que pour Jeanne Galzy, au contraire, ça change sans arrêt, elle veut expérimenter, changer, etc. Donc, le premier roman, La Grand Rue, 1925, se situe à Montpellier, dans la rue du même nom. Alors, c'était un roman très romanesque, nourri des... On pourrait l'appeler les mystères de la Grand Rue, si vous voulez, parce qu'il était nourri des souvenirs personnels, évidemment, de l'auteur. Et il avait aussi un côté un peu sulfureux parce qu'il évoquait un inceste, thème qui reparaîtra dans l'œuvre de Jeanne Galzy. Le second roman, je ne sais plus si je l'ai mis, non, je ne l'ai pas mis, alors donc on va rester là. Le second roman, Le Retour dans la vie, était au contraire inspiré de son expérience de la maladie et retraçait sous une forme romanesque, la difficulté des anciens malades à retrouver une existence normale et surtout un équilibre moral. Et c'est un roman, on peut dire, toujours d'actualité. Les préoccupations spirituelles qui caractérisaient les allongés étaient toujours présentes et évidemment les critiques catholiques qui n'avaient pas tellement aimé La Grand-Rue se sont ainsi reconnus dans ce livre. Et puis il faut ajouter à cette date aussi une biographie de Sainte Thérèse d'Avila, 1927, qui est une commande, parce qu'à l'époque, il se trouve qu'à l'époque, on a envie de parler de la sainteté. La sainteté est à la mode, et par exemple, avec le roman de Bernanos, Sous le soleil de Satan, 1925, mais d'innombrables biographies de saints. Et évidemment, si on a pensé à Jeanne Galzy pour cette biographie de Sainte Thérèse d'Avila, c'est parce qu'elle était une femme, et aussi parce que sa sensibilité paraissait en concordance avec le sujet. Et alors, dans cet ouvrage, elle apparaît aussi très, très présente, avec ses doutes, avec ses interrogations, en prise sur celle de la sainte, qui a elle-même aussi beaucoup de doutes et d'interrogations. Et là encore, les critiques catholiques disent « bon, ça va, c'est quelqu'un, une catholique qui s'ignore, voyons, en quelque sorte. » Mais bon, elle ne fait pas le pas décisif, elle ne se rallie pas. Bon, alors les autres romans ou biographies de la même période, écrits pas mal pendant cette période, l'initiatrice aux mains vides retraçait l'expérience de la solitude d'une jeune enseignante et l'attrait d'ailleurs parfaitement chaste, mais tout de même très fort, qu'elle peut nourrir pour une de ses jeunes élèves. Et puis, un peu plus tard, donc, elle transpose son expérience de Sèvres dans le livre « Jeune fille en terre chaude ». Et dans un autre roman, « Les démons de la solitude », en 1932, elle retrace, c'est la transcription sous forme romanesque du trouble, du désarroi d'une jeune fille à la fin de l'adolescence, dans un grand domaine de l'Hérault, voilà l'initiatrice aux mains vides, donc dans un grand domaine terrien de l'Hérault, avec aussi une petite histoire sentimentale. Et enfin, dernier essai, toujours nouveau, c'est une espèce d'expérience, c'est un roman qu'on peut qualifier d'expérience, ça s'appelle « Le village rêve », et ce roman décrit un village du Gard pendant une quinzaine d'heures, un jour d'été, à travers les faits et les gestes d'une trentaine de personnages, de milieux sociaux très différents, du cantonnier jusqu'à la vieille demoiselle de château, un village qui pourrait être Clarensac ou Caveyrac, si vous voulez, un peu. Et à travers cette description très factuelle apparaissaient évidemment les sentiments des uns et des autres, mais aussi, de façon en quelque sorte ethnographique, on voyait la modernité s'introduire peu à peu dans le village avec la TSF, l'autobus, l'électricité, etc. Et Jeanne Galzi a qualifié ce livre d'essai technique, mais elle était très consciente du fait que ce livre était plutôt en avance, si vous voulez, sur son temps, et qu'il n'aurait aucun succès, ce qui s'est d'ailleurs vérifié. Bien. Et enfin, dans ces années, à la fin de ces années 30, ce qui traduit peut-être un peu une panne d'inspiration, elle revient à la biographie avec deux biographies de femmes du XVIe siècle, Catherine de Médicis et la reine Margot, en 1939, car Jeanne Galzi a toujours préféré le XVIe siècle. Ce XVIe siècle, c'est son siècle préféré depuis ses études supérieures, à la fois à cause de la qualité de la langue, qui n'est pas encore disciplinée par le classicisme, qui n'est pas encore, on pourrait dire, châtrée par le classicisme, et puis d'autre part parce que c'est un siècle violent. C'est curieux de dire ça, mais c'est comme ça. C'est un siècle violent, de grands conflits, de conflits armés, de conflits de religion, etc., de grandes passions. Et ce qui est très frappant, c'est que quand elle parle du XVIe siècle, ce n'est pas du tout le siècle de l'humanisme. C'est un siècle plutôt de grandes passions et de grands conflits. Bon, peut-être cette orientation vers la biographie traduisait un certain essoufflement de l'inspiration romanesque. Alors, on en arrive, voilà, jeune fille en serre chaude. Et on en arrive au quatrième point, la guerre et la retraite, Jeanne Galzi à Montpellier, de 43 à 44. La guerre apporte évidemment pour elle des changements décisifs. D'abord, elle est repliée, comme on disait à l'époque, à Montpellier. Puis en août 40, une décision générale appelle les fonctionnaires à reprendre leur poste, et elle revient donc en zone occupée. Mais en 1943, elle va avoir 60 ans. Le régime de Vichy, très peu favorable aux femmes, la force à prendre sa retraite, une petite retraite, parce qu'elle avait commencé assez tard, qui ne devait guère suffire à ses besoins. Donc elle a besoin d'écrire, il faut qu'elle écrive pour gagner sa vie. N'oublions pas qu'elle avait toujours sa mère et sa sœur à sa charge. Et à partir de ce moment-là, elle vit dans sa maison, la maison de ses parents, à Montpellier, une belle maison d'ailleurs, rue Guillaume de Nogaret, qu'on peut encore voir aujourd'hui. Mais elle doit louer une chambre à une étudiante pour se faire un peu d'argent. Et elle vit quand même modestement. Alors, pendant la guerre, quels étaient ses sentiments? On ne connaît pas grand-chose. Avant la guerre, elle se situait plutôt, on dirait plutôt à gauche, ce que confirme son amitié pour Jean-Richard Bloch. Et d'autre part, à l'époque de Vichy, elle ne pouvait absolument pas approuver l'atmosphère d'ordre moral du régime de Vichy, qui lui répugnait profondément. On peut savoir qu'elle a sympathisé avec la résistance, mais sans s'engager véritablement. Mais cette double expérience de la vie à Paris jusqu'en 1943 et puis de la vie à Montpellier à partir de 1943 lui a permis d'avoir justement la vision des deux côtés de la France en quelque sorte, et elle l'utilisera un petit peu plus tard. Alors pendant cette période, elle continue à écrire des romans qui sont intéressants mais qui ne sont peut-être pas la meilleure partie de son œuvre, qui se passent en général dans des hautes terres comme le Limousin ou la Lozère ou aussi en pays roussillonnais. Voilà. Et ces romans de la ruraux, en quelque sorte, sont centrés sur le huis clos familial, l'effet terrible des jalousies féminines, la violence des passions. Ce sont des romans assez sombres. Elle ne s'est plus dans la mièvrerie sentimentale. Donc, à la Libération, elle avait acquis assez de notoriété pour entrer au jury du Fémina en 1945, ce qui lui permit de rester en contact avec la vie littéraire parisienne. Et cette année 1945 est aussi celle où meurt Eugénie Segond-Weber, qui avait été son amie de toujours, et ça a été pour elle un moment très difficile. Donc, cette période est aussi assombrie par la mort de sa sœur Berthe en 1961. Alors, cette vie, donc, de la fin de la guerre jusqu'en 69, C'est une époque, donc, où elle va continuer à produire, elle continue à produire, toujours avec cette tentative de renouvellement. Le Parfum de l'œillet, qu'elle publié en 1956, c'est un roman policier, d'ailleurs un très bon roman policier. Celle qui vient d'ailleurs en 1958, c'est un roman fantastique, vous voyez. Et de cette inlassable curiosité et goût d'entreprendre témoigne aussi l'intérêt qu'elle attacha aux expériences de théâtre radiophonique menées par Montpellier, par Radio Montpellier dans les années 50 et auquel participait un écrivain principal comme Frédéric Jacques Temple et aussi une comédienne, Madeleine Attal, qui était la comédienne qui travaillait pour ce théâtre radiophonique. Et pour ces expériences de théâtre radiophonique, elle a écrit des adaptations, soit de ses propres romans, soit d'œuvres d'autres auteurs comme Ramuz ou Hoffmannsthal. Oui, alors la voilà, par exemple, à un pot à Radio Montpellier, et à ce théâtre radiophonique participaient des comédiens, par exemple, de la Comédie française. Ici, il paraît qu'il y a, je ne peux pas le vérifier, Denis Dinès et Julien Berthaud, mais qui étaient à l'époque sociétaires de la Comédie française, mais ça, je ne pourrais pas vous dire qui ils sont sur la photo. Et enfin, pendant cette période, donc, retenons trois œuvres majeures quand même de cette période. C'est un roman, La jeunesse déchirée, qui paraît en 1952, et deux biographies, celle de George Sand et celle d'Agrippa d'Aubigné, sur lesquelles je parlerai tout à l'heure.
Las conferencias de Radio Languedoc.
Alors, cette jeunesse déchirée, roman auquel Jeanne Galzy a travaillé très longuement, consacre un changement dans l'œuvre de Jeanne Galzy, une inflexion majeure. D'abord parce que c'est un gros roman. Jusqu'ici, elle a toujours écrit des romans de 250 pages, mais là, c'est un gros roman de 450 pages où elle met en scène de très nombreux personnages et qui est bâti à partir de son expérience personnelle de la vie à Paris et à Montpellier pendant la guerre et qui traite donc, comme son nom l'indique, des engagements, des sentiments et des engagements de jeunes gens dans ces deux villes pendant la guerre, engagement dans tous les camps, hein, ça peut aller du côté de la milice et de la collaboration, ou au contraire du côté de la résistance, ou de rien du tout, hein, de gens qui sont indifférents. Et c'est un roman aussi où elle se libère de sa réserve antérieure, réserve propre à un fonctionnaire, parce qu'elle ne pouvait pas dire n'importe quoi dans ses romans quand elle était enseignante, hein, bien entendu. Et elle présente, par exemple, le parcours douloureux d'une jeune femme homosexuelle, thème qui n'avait été jusqu'ici qu'effleuré dans son œuvre et qui deviendra ensuite beaucoup plus important. Ce roman n'a pas eu énormément de succès. Il est paru un peu trop tard, hein, les romans en quelque sorte de la Libération étaient déjà parus, on était passé à une autre époque, et il n'eut pas le succès que Jeanne Galzy attendait. Mais en revanche, deux biographies, elles ont été bien accueillies. C'est une biographie de George Sand qui devait paraître normalement pour le centenaire de 1848, mais qui parut en fait en 1950. Et George Sand, au fond, c'était une femme un peu comme elle, hein, c'est-à-dire femme écrivain, travailleuse acharnée, ayant vécu à la fois en province et à Paris, ayant tâté de tous les genres littéraires, une femme certes à vie sentimentale, beaucoup plus orageuse que celle de Jeanne Galzy et plus engagée en politique, mais comme elle, une femme dépourvue de préjugés moraux, hein, moraliste plutôt, non pas dépourvue de préjugés moraux, mais de sentiments moraux, mais dépourvue de préjugés moralistes. Quant à Agrippa d'Aubigné, toujours un homme du XVIe siècle, le livre paru plus tard en 65, Jeanne Galzy avait alors plus de 80 ans, elle l'avait découvert dès ses études à l'INS et elle lui est restée fidèle, on peut dire, toute sa vie. C'était un homme qui avait vécu dans une époque déchirée, un rebelle, fidèle à sa foi, un poète extrêmement original, et Jean Gelsi a toujours été attaché à la poésie, la nostalgie de la poésie, et puis on sent quand même dans cette œuvre, vers la fin de sa vie, un certain retour affectif au protestantisme qui jusqu'ici passait un peu sous le boisseau, hein, qui n'était pas visible. Et enfin, elle était jurée du prix féminin. Alors, il fallait lire donc à la rentrée les romans. Alors, à l'époque, en 1958, il en parut 225. Cette année, il va en paraître 607. Vous avez vu, hein, donc on a fait quelques progrès, si je puis dire. Mais on trouvait que c'était déjà beaucoup à l'époque, 225 romans. Alors, c'était au jury du prix féminin, elle était considérée un peu comme la provinciale, la paysanne. Il y avait des gens très bien dans ce jury du féminin. Il y avait la duchesse de la Rochefoucauld, etc. Des tas de gens très bien. Et elle était un peu... Elle venait de la province, n'est-ce pas ? Bon, mais elle a réussi quand même à se faire respecter, car c'était une lectrice extrêmement sérieuse, avec des goûts bien tranchés. Et elle aimait... D'ailleurs, elle a expliqué ses goûts littéraires. Elle aimait donc des romans bien écrits où l'analyse psychologique était suffisamment développée. Elle aimait des romans traitant de personnages ayant du caractère et non pas, comme elle l'écrit, d'êtres amorphes. C'est pourquoi elle ne semble pas avoir apprécié beaucoup, par exemple, Sartre ou Camus, dont elle ne parle jamais, et pas non plus le nouveau roman trop desséché. Mais, par exemple, elle avait repéré très vite des gens comme Philippe Solers, comme Marguerite Duras, ou enfin Françoise Malet-Joris. Dernière étape... l'apogée de la carrière littéraire à l'extrême fin de la vie. Alors ça, c'est l'aspect le plus étonnant, hein, de la vie de Jean Gelsi. Contrairement à la plupart des écrivains qui, quand même, en général, se survivent après leur moment de plus grande réussite, Jean Gelsi opéra à plus de 85 ans ce qu'on peut appeler, ce qu'on appellerait aujourd'hui un comeback, hein, c'est-à-dire un retour en force spectaculaire sur le plan littéraire, avec les 4 volumes de La surprise de vivre. Alors cette œuvre, alors voilà Jean Gelsi âgée, vous voyez, c'est une dame, vous voyez qu'elle avait des colliers. Jean Gelsi aimait beaucoup les colliers, et c'était des colliers qui ne coûtaient pas cher, elle les achetait à prix unique, et elle disait à ses amis, elle disait, mais achetez-vous donc des colliers, il faut s'acheter des colliers, c'est gai les colliers. Voilà, alors elle avait été, en fait, cette série lui avait été inspirée par un tableau du peintre Basile, vous savez, qui est mort à la guerre de 70, qui est un précurseur des impressionnistes, réunion de famille, qui montre une famille bourgeoise de Montpellier sur la terrasse de sa résidence, près de Montpellier. Et donc, la surprise de vivre, c'est une vaste fresque à la fois sociale et sentimentale, alors au début surtout sociale, et puis après elle devient plus sentimentale quand même, qui s'étale du début du XXe siècle à l'après-Deuxième Guerre mondiale, et qui met en scène plusieurs familles apparentées de Montpellier ou de la région camarguaise. Alors, il faudrait, en fait, pour ces 4 volumes, une conférence à part, mais je ne vais pas la faire, rassurez-vous, c'est une saga familiale. Jean Gelsi reprend une forme littéraire qui était propre surtout à l'avant-guerre, avec par exemple Duhamel, La chronique des Pasquiers, Martin Dugard, Les Thibauds, ou l'immédiate après-guerre, Philippe Herriat, Les Boussardelles, Elisabeth Barbier, Les gens de Mogador, par exemple. Hein. Mais reprise par Jean Gelsi, elle présente bien des traits originaux. Alors c'est d'abord effectivement la description du déclin progressif d'une famille bourgeoise, principalement d'une famille bourgeoise. Elle a voulu faire l'histoire de la bourgeoisie, dit-elle, mais de plus en plus au cours de l'œuvre, elle se libère de ses propres interdits et nous introduit très profondément dans la sensibilité féminine, y compris quand elle s'accompagne de penchants homosexuels, et enfin parce qu'elle s'y livre tout entière avec ses conceptions, sa conception de l'amour et de la vie, avec ses fantasmes, avec ses rêves d'évasion, son refus d'un certain puritanisme et de l'étroitesse bigote, et c'est aussi un livre donc qui s'impose par sa qualité d'écriture, enfin une série qui s'impose par sa qualité d'écriture, à la fois discrète et d'une précision aiguë. Voilà La Surprise de Vivre, ça c'est le premier volume, et voilà le dernier volume, Le Rossignol aveugle, avec un tableau de Courbet, hein, l'image avait été choisie par Gallimard et ça n'avait pas quand même tellement enchanté, mais enfin, bon. L'œuvre reçut un accueil extrêmement favorable, hein, voir une dame qui avait plus de 85 ans et qui produisait plusieurs milliers de pages et de très bonne qualité. Et on parla donc de monuments. Le livre est très bien accueilli à l'époque par l'ensemble de la critique littéraire, excepté par certains critiques catholiques comme Pierre-Henri Simon du Monde, qui trouvaient quand même qu'elle y allait un peu fort sur le plan justement de la morale. Et Jeanne Galthié voulait en fait poursuivre encore et avait prévu de faire un cinquième volume, mais en 1977, elle meurt en peu de jours à la suite d'accidents de santé répétés et elle est enterrée au cimetière protestant de Montpellier où sa tombe peut être vue encore à côté de sa sœur. Sur sa tombe, elle avait voulu qu'on lise un poème parce que toujours, hein, c'est cet attachement à la poésie, voilà ce poème. Hein, j'écris au rythme de ma vie avec le chant qui monte en moi toujours tenace comme une cadence de marche. J'écris pour dire mon amour insatiable et impérissable comme une vague qui bat le rivage d'un port. J'écris pour dire que je fus, parmi l'éternité du monde, le bruit éphémère d'un pas, le battement indiscernable d'un souffle passant sur le sable, d'un cœur, c'est elle de Colombe. C'est le poème qu'on a lu à son enterrement. Elle est enterrée donc au cimetière Montpellier. Sa maison, léguée à la Ligue contre le cancer, est abandonnée et pillée même, ce qui entraîna la perte de documents sans doute précieux pour la connaissance de la romancière, et le souvenir de l'œuvre s'efface peu à peu. Toutefois, le professeur Jacques Proust de l'université de Paul Valéry, lorsqu'il la remplaça à la Société des sciences, arts et lettres de Montpellier, prononça un hommage qui mit en lumière certains aspects de l'œuvre, mais il m'a dit lui-même qu'il connaissait cette œuvre très imparfaite, très incomplètement. Et la municipalité de Montpellier a donné à Jeanne Galthié le nom d'une impasse et d'un foyer de personnes âgées. Et plus récemment, en 1999, l'université Paul Valéry a décidé quand même de donner à une de ses grandes salles le nom de la romancière. C'est tout de même assez peu, hein, pour une romancière qui honore vraiment notre région. Alors, après ce parcours nécessairement rapide sur l'œuvre, la femme et son œuvre, je voudrais revenir rapidement sur son rapport au Languedoc, puisque c'est une romancière de notre région, et puis nous sommes à l'université occitane. Tout d'abord, il faut être très clair, Jeanne Galthié n'est absolument pas une romancière régionaliste, hein, comme certains écrivains, pas forcément mauvais d'ailleurs, le sont. Hein, je pense à des gens comme Michel Jury, Gaston Bessette, Jean Anglade, etc. Ce sont des bons écrivains, ce sont des écrivains qu'on peut quand même qualifier de régionalistes. Mais elle, absolument pas. D'ailleurs, elle détestait les mots en iste. Hein, elle n'était pas féministe. Elle dit, je n'aime pas les mots en iste, je ne suis pas anti-alcool. Enfin, je ne soutiens pas l'anti-alcoolisme, je ne soutiens pas le féminisme. Bon, donc, alors, sa famille, donc, n'est pas originaire du Languedoc, mais d'Auvergne, et elle mettait d'ailleurs une certaine coquetterie à se dire auvergnate. Bon, mais en tant que telle, certes, elle est occitane. D'autre part, ses romans, comme vous l'avez vu, ne se déroulent pas tous dans le Languedoc, et son domaine géographique est... C'est élargi, hein, parce que les premiers, L'Enseveli et La femme chez les garçons, se passent en Languedoc, puis Les Allongés à Berck dans le Pas-de-Calais, puis elle revient au Languedoc avec La Grand-Rue et aussi avec Le Retour dans la vie. Ensuite, son champ s'élargit au cours de la vie. L'Initiatrice aux mains vides se déroule à Amiens. Jeune fille en serre chaude à Sèvres, près de Paris. L'Image, c'est un autre roman dont je n'ai pas parlé, à Saint-Germain. Le Parfum de l'œillet à Avignon. Il y a les romans Limousin, L'Osérien, etc. Bon, En gros, un peu plus de la moitié de ses ouvrages seulement ont pour cadre essentiel le Languedoc. Son champ géographique s'est aussi diversifié, notamment par la présence de plus en plus insistante de la Camargue dans son œuvre à partir de la guerre de 1939-45, et on ignore absolument pour quelle raison Jeanne Galzy s'est profondément intéressée à la Camargue à partir de cette date. Elle apparaît dans plusieurs œuvres, notamment dans La surprise de vivre. Alors, pour elle, la Camargue, c'est une terre de liberté, hein, une terre de liberté où les contraintes sociales sont beaucoup moins fortes que dans le Languedoc urbain et viticole, une terre où les individus sont plus proches des éléments, du vent, de la mer, de la vie animale. Hein. Donc, c'est une terre de liberté. Et puis, une terre où la nature est plus libre aussi, on pourrait dire. Mais elle ne cède absolument pas à l'image touristique de la Camargue. Hein. On ne parle pas de l'élevage taurin, pas de cabane de gardien, pas de ferrade. D'autre part, comme elle s'est mise à écrire dans la seconde moitié de sa vie des romans qui étaient plus gros, qui mettaient en scène de nombreux personnages, ceux-ci, évidemment, appartiennent à différentes régions. Hein. La jeunesse déchirée se passe à moitié à Paris, à moitié dans la région montpelliéraine. Dans les quatre volumes de La surprise de vivre, les personnages vivent surtout en Languedoc et en Camargue, mais il y a aussi des Parisiens, une dame, une préceptrice qui vient d'Angleterre, une actrice qui est parisienne, etc. Bon, elle n'est pas non plus incapable de goûter d'autres paysages que ceux du Languedoc. Par exemple, elle a décrit avec beaucoup de sensibilité les paysages picards. Vous savez, en Picardie, il y a en particulier des ciels pâles qui sont très beaux, et elle les a décrits avec beaucoup de sensibilité. Et puis aussi les hautes terres lozériennes avec ces contrastes climatiques extrêmement forts, la brusque arrivée du printemps qui succède au siège du froid et de la neige. Hein. En revanche, elle n'apparaît pas séduite par Paris, dont elle apprécie certes la vie intellectuelle, mais plutôt décrite par elle comme une ville triste, grise, froide, pas vraiment la ville lumière. Cependant, on sent chez elle un très fort attachement au Languedoc. C'est d'abord par l'allusion à la domination du soleil sur la région. Cet aspect solaire, sous le double aspect chaleur et lumière, très présent dans son œuvre, parce qu'elle a pu comparer avec d'autres régions françaises, et soleil dont elle ne méconnaît pas du tout les aspects les plus pénibles, les chaleurs étouffantes, écrasantes, l'été. Bon, ça c'est un aspect, l'aspect solaire. Ensuite, on sent chez elle un attachement à la ville et à la campagne languedocienne, à la ville avec son cadre architectural, ses petites rues comme la rue de sa naissance, à la campagne vue avec le domaine terrien viticole dont elle a su rendre d'ailleurs les difficultés croissantes et la vie un peu cloisonnée. Bon, elle sait peindre aussi la société bourgeoise languedocienne avec sa bourgeoisie protestante un peu austère, ses rivalités confessionnelles, ces riches négociants et propriétaires fastueux et aussi peu préoccupés de morale, viveurs, hein, fiers de leur succès. Hein, ce monde languedocien, elle l'avait bien connu et était armée pour le décrire. Alors, pour finir sur ce point, donc, il faut préciser aussi les sentiments de Jeanne Galzy vis-à-vis de l'occitanisme qui est, à l'époque, représenté par le Félibrige. Elle s'exprime dans un assez long texte sur Mistral, qui est publié dans une revue qui s'appelle La Grande Revue, à l'occasion de la mort du poète en 1914. Alors pour elle, Mistral est d'abord un poète épique, qu'elle compare d'ailleurs à Virgile. Et son œuvre résulte donc d'un accord exceptionnel entre une terre et un poète. Elle dit qu'il réunit la grâce romane, le merveilleux du Moyen-Âge et la grandeur classique. Elle apprécie beaucoup, alors est-ce qu'elle connaissait l'Occitan? Sûrement, hein, un peu au moins, la verdeur savoureuse et la sonorité merveilleuse de la langue provençale qui lui paraît plus propre que le français à rapprocher la poésie du peuple. Et c'est le mérite aussi qu'elle reconnaît à Mistral d'avoir utilisé cette langue pour rapprocher la poésie du peuple. Alors, dans l'œuvre de Mistral, elle choisit, elle préfère Mireille, non pas à cause de l'histoire d'amour, qu'elle juge pas vraiment neuve, et que l'opéra de Gounod a privilégié, mais Mireille comme épopée de la Provence. Et d'autre part aussi, avec Mireille, l'autre œuvre qu'elle choisit, c'est le poème du Rhône, dans lequel elle trouve un drame poignant, plutôt que Calando, qui manque, à son avis, de spontanéité, et Nert, qui est presque mièvre, dit-elle. Voilà, donc, un jugement qu'on peut qualifier de raisonné. Pourtant, elle ne croit pas du tout à la résurrection de la langue occitane. C'est assez pessimiste. La perte du provençal est pour elle irrémédiable, et elle est assez catégorique, et sans doute trop catégorique à cet égard, et pour elle, cette perte n'a rien de plus terrible que la perte d'autres langues. Mistral est donc pour elle un témoin brillant, mais d'un monde révolu, et au fond, on peut dire que ce faible attachement au passé, on ne sait pas si c'est... Je ne sais pas si c'est une qualité ou un défaut de Jeanne Galzi, mais c'est un des très marquants de Jeanne Galzi, car c'est une femme tournée vers l'avenir. À 85 ans, à 90 ans, elle est tournée vers l'avenir. D'ailleurs, elle disait « J'aime beaucoup la vie et je tiens à ce qu'elle continue ». Voilà, et je conclurai donc sur cet optimisme, car si cet auteur est un personnage complexe qui est plein de contradictions, et je ne veux pas m'apesantir sur ces contradictions parce que ça nous entraînerait un peu trop loin, il y a chez elle un élément constant. C'est un formidable amour de la vie que tous les témoins qui l'ont connu mentionnent et qui était dû sans doute au fait qu'elle avait frôlé la mort dans sa jeunesse et qu'elle a connu alors ce qu'elle a appelé dans sa dernière œuvre la surprise de vivre. Et cette surprise de vivre l'a portée au fond comme une sorte de vague pendant toute son existence. Voilà, je vous remercie.
À causer la seconde et dernière part de la conférence de Raymond Huard à propos de Jeanne Galzi, escrivane, romancière languedociane del segle XX. Fuguette registrada per l'Università Occitana d'Estio de Nimes en 2014.